objectif, c'est d'être à pied d'œuvre le plus vite possible.
Se mettre au travail rapidement, l'ambition du nouveau Premier ministre Jean Castex qui planche déjà à la constitution de son gouvernement.
Inconnu du grand public, il s'est un petit peu dévoilé hier soir sur TF1, revendiquant son ancrage territorial, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Nous serons dans sa ville de Prades dans un instant.
Dans ce journal aussi, la route des vacances et les premiers départs ce matin.
Et puis l'épilogue des élections municipales dans deux grandes villes, Lyon, ça devrait se passer correctement, et puis Marseille, ça c'est plus compliqué, avec son lot de tractations et de divisions à gauche comme à droite, situation politique selon les Marseillais déplorable.
C'est insupportable.
Mais ça, c'est la politique politicienne. Ils s'arrangent entre eux, d'accord ? On est contre tout ça.
Du dégoût, c'est ridicule. C'est une image déplorable, voilà.
Très inquiet pour l'avenir.
Elle s'affrontait au tribunal, par avocat et par médias interposés depuis plus de 2 ans. Mais Laetitia Hallyday et Laura Smet ont trouvé hier un accord.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il était un élu local, il est devenu hier Premier ministre Jean Castex à Matignon. De l'ombre à la lumière, il fallait faire les présentations. Eh bien, c'est chose faite depuis hier soir.
Jean Castex s'est un petit peu dévoilé dans le 20h de TF1, résumé de cette première prise de parole publique. Avec vous, Jean-Gabriel Bourgeois.
Je ne suis pas ici pour chercher la lumière. Je suis ici pour chercher des résultats.
Un accent du Sud-Ouest et son berceau du Gers revendiqué, le nouveau Premier ministre se définit comme gaulliste social. Venu de la droite comme Édouard Philippe, il entre à Matignon en connaisseur de l'appareil d'État, mais aussi en tant qu'élu de terrain.
Je suis un homme politique enraciné dans mon territoire, je suis un homme politique local, je suis un homme politique de la vie quotidienne des gens, et cela me rend très fier.
La méthode de Jean Castex, c'est la réconciliation entre Paris et les territoires.
Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Je crois au territoire.
Le Premier ministre veut un nouveau dialogue social au plus près des citoyens pour un plan de relance qu'il annonce vigoureux. Tout cela en tenant compte du virage vert promis par Emmanuel Macron.
L'écologie n'est pas une option. Comment amplifier ? Quelqu'un a parlé d'accélérer. C'est au cœur, effectivement, je vous le confirme, des priorités. L'objectif, c'est d'être à pied d'œuvre le plus vite possible.
Jean Castex veut boucler le casting de son équipe gouvernementale dès ce week-end. Il prononcera son discours de politique générale en milieu de semaine prochaine.
Un profil d'élu ancré dans son territoire, donc, que ne demandent pas d'ailleurs les habitants de son fief d'adoption. Reportage à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Benjamin Péter pour Europe 1.
J'ai reçu des coups de fil toute la journée comme si c'était moi. Alors, c'est le maire de Prades.
Michel est ravi. Pour elle, c'était le meilleur choix. Elle se souvient de la proximité du nouveau Premier ministre avec les Pradéens, notamment le jour où elle a écrit à la mairie pour un banal problème de voirie et que Jean Castex est venu la voir personnellement.
Je n'en revenais pas. Alors quand je lui ai dit, d'ailleurs il a pris le temps, il restait un moment et il m'a dit qu'il était près de ses administrés, qu'il aimait bien connaître les gens et je pense que c'est vrai. Ça, il me rappelle un peu Chirac. C'est un bon maire, si on ne le gâche pas, il sera pas mal.
Ramon le connaît bien. Pour lui, le Gersois Jean Castex peut séduire les Français comme il a su séduire les Catalans en se faisant élire ici.
Sa femme était mon élève. Elle est catalane, elle parle catalan. Et Castex a appris le catalan avec sa femme. Il a un avantage, c'est qu'il est pragmatique. Il est de droite, je suis de gauche, et on s'est toujours entendu. Je ne le sais pas ce qu'il va faire, évidemment, c'est son problème. Mais je suis sûr que dans son gouvernement, il y aura des gens de droite et des gens de gauche.
Mais tous ceux que j'ai rencontrés le disent, et notamment son premier adjoint pressenti pour le remplacer. Ils espèrent qu'il reviendra finir son mandat ici dans 2 ans, à l'issue du quinquennat. Lui qui a été élu avec plus de 75% des voix au premier tour. À Prades, Benjamin Péter, Europe 1.
Et si Jean Castex se met aujourd'hui à la tâche pour constituer son gouvernement, pour de nombreux Français, en revanche, l'heure est désormais aux vacances.
Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Bernard.
Vous êtes sur la route des vacances pour Europe 1, précisément sur l'aire de Genvry-Limours. C'est sur l'autoroute A10, donc l'autoroute qui mène au littoral atlantique. La journée est classée orange par Bison Futé dans le sens des départs. Et vous constatez qu'au fil des minutes, la circulation s'intensifie. Mais enfin, ce n'est pas le délire du 15 août quand même, hein.
Bien oui, parce que en temps normal, sur cette aire d'autoroute, ici en plein été, on accueille 30 000 vacanciers chaque jour. Alors on n'y est pas encore, mais en effet, les places de parking se remplissent, voitures chargées, coffres installés sur les toits, vélos attachés à l'arrière. Pour Julien, c'est départ en minivan à la tête d'un groupe d'une vingtaine de jeunes.
C'est une tournée de tennis, on vient du club Géo André à Reims. Et du coup, voilà, on part 2 semaines donc, au Sable d'Olonne pour faire des toits de tennis, voilà. Donc dans une maison avec piscine, tout ça. Donc c'est comme une colo, mais en mode tournoi de tennis. Bon, ils sont un peu fatigués, mais je pense qu'ils sont contents. Est-ce que vous êtes contents de partir ou pas?
Alors, je ne vous cache pas qu'à 8h du matin, on ne retrouve pas le même enthousiasme sur tous les visages fatigués. Simon et Noémie, par exemple, ils arrivent d'Anvers, en Belgique, direction les Gorges de l'Ardèche.
Ben, on a de tout pour aller faire du camping, quelques semaines de retraite en France.
Vous êtes deux, vous avez un monospace et il est bien chargé.
Oui, on était un peu tardif à préparer nos sacs et tout, donc on a amené plus qu'on a besoin, mais mieux ça que trop peu. Normalement, on allait au Portugal. Lisbonne était de nouveau fermée, donc on a changé de direction et maintenant on va dans le sud de la France environ, donc voilà.
Alors la grande question pour les responsables de cette aire ici, c'était de savoir si les touristes étrangers seraient bien présents sur les routes de France. Avoir les plaques d'immatriculation ici, belges, néerlandaises, allemandes, ils sont bien aujourd'hui au rendez-vous.
C'est parfaitement noté. Merci beaucoup Nicolas Feldman. En direct de l'autoroute A10 pour Europe 1.
Des vacanciers français et étrangers donc, justement, impatiemment attendus. Car malgré le déconfinement entamé le mois dernier, l'ambiance pour l'instant reste un peu calme, comme dans ce camping de Jarre-sur-Mer. Mer en Vendée, où s'est rendu François Coulon pour Europe 1.
C'est sa 11e saison au camping Océano d'Or. Annie est estomaquée et tristounette.
Il n'y a personne. Les Hollandais et les Anglais ne sont pas là. Ben, c'est triste parce qu'eux, on les voit à la piscine, on les voit au bar. Ils animent, hein, en fait. Ils ne sont pas là. C'est mort, moi, je trouve.
La baisse de fréquentation des étrangers est spectaculaire ici, moins 65%. Les mesures barrières cassent un peu l'ambiance, dit Xit Alain, 78 ans.
On essaye de rester à peu près 1m50, mais on ne met pas les masques, on est quand même à l'air ici. Hein.
Et vous tapez sur l'épaule encore?
Non, le petit coude. Il n'y a pas d'embrassade, chacun reste à peu près à distance.
Le Covid n'empêchera pas les animations, mais il condamne les soirées dansantes trop risquées. D'une façon générale, on a un peu trop la bride sur le cou, déplore Élise, manipulatrice radio.
On n'a pas vraiment de choses imposées, un règlement intérieur Covid par exemple. Étant du médical, ça me surprend. Je trouve ça un peu léger, très léger. La pétanque le soir, tout le monde les uns sur les autres. C'est souvent des personnes âgées qui sont les plus touchées. S'il arrive quelque chose, c'est dommage.
On ne veut pas martyriser nos clients, rétorque le directeur Franck Chadeau. Ils viennent ici pour souffler après 2 mois de confinement. On ne l'oublie pas. Jarre-sur-Mer, François Coulon, Europe.
À suivre dans ce journal, Marseille. Marseille, unique objet de mon ressentiment. Marseille est le feuilleton des municipales. Inimaginable. Élection du maire aujourd'hui. Et aucune certitude quant au résultat final. À tout de suite.
Il est 8h07 sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1, le 6-9. Bernard Poirette.
Europe 1. Suite de l'actualité avec Marion Calais et Bernard Poirette.
Dans quelques heures, la fin du suspense pour la mairie de Marseille. On va connaître aujourd'hui le nom du nouveau maire de la ville.
Et pour les Phocéens, il est temps que ça se termine entre une gauche qui continue de négocier et une droite divisée. À Marseille, pour Europe 1, Nathalie Chevance.
Parole de Marseillais, qu'il soit de droite ou de gauche, cette semaine de tractation politique laissera des traces.
C'est insupportable.
Mais ça, c'est la politique politicienne. Ils s'arrangent entre eux, d'accord? On est contre tout ça.
Du dégoût, c'est ridicule. C'est une image déplorable, voilà.
Très inquiet pour l'avenir. C'est pas gouvernable.
Car y aura-t-il tout à l'heure une majorité absolue pour la gauche? Rien n'est moins sûr. La sénatrice Samia Ghali, qui peut apporter les voix qui manquent, n'obtiendra pas le poste de première adjointe qu'elle réclame. Pas de chantage à recadrer le printemps marseillais, mais Yannick Ohanessian, fraîchement élu, croit à un accord de dernière minute.
Nous vivons un moment d'histoire historique dans cette ville. Nous avons proposé à Samia Ghali de venir avec nous, de constituer une majorité. Et la question n'est pas une question de poste, de place, mais véritablement de ce que nous ferons demain ensemble pour la ville de Marseille.
La pêche aux voix jusqu'au bout et pour ajouter au suspense, la droite déchirée devrait présenter 2 candidats, le doyen Guy Tessier et Lionel Royer-Perrot, dissident de dernière minute.
Cette ville, elle est en ébullition. La situation politique est inédite. Et donc nous nous attendons à un conseil municipal qui devrait sortir des annales politiques de cette ville. Il y aura beaucoup de surprises.
Et des manifestants en dehors, des sympathisants du printemps marseillais qui n'imaginent pas qu'on leur vole l'élection, comme ils disent. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Hier, intronisation de Louis Alliot à Perpignan, d'Éric Piolle à Grenoble et de Martine Aubry à Lille. Lille où les deux listes concurrentes, hein, LREM et écologistes, ont déposé des recours après l'élection.
Au Havre, premier conseil municipal demain pour le désormais ex-premier ministre, Édouard Philippe, qui a dit hier prendre acte de l'ouverture d'une enquête judiciaire sur sa gestion de la crise du coronavirus. 9 plaintes déposées à son encontre, notamment, ont été jugées recevables.
2 ans et demi après la mort de Johnny, sa veuve Laetitia et sa fille Laura ont trouvé un accord, on l'a appris hier, accord qui met un terme à une longue guerre de succession médiatique et judiciaire pour Europe 1. Salomé Legrand.
Une bataille d'images puis d'avocats. Dans la presse d'abord, des enfants abandonnés et meurtris fustigeant l'égoïsme d'une veuve blessée d'être traînée dans la boue. Première ronde judiciaire devant le tribunal de Nanterre. Des audiences en urgence pour geler le patrimoine du rocker, villa et royalties. D'un côté, l'analyse des aînés. Johnny est un pur produit de l'Hexagone. Le droit français l'empêche de les déshériter. En face, les conseils de Laetitia le jurent plus américain que jamais, jusqu'à ce revers cuisant pour la veuve du rocker. En mai 2019, la justice française se déclare compétente dans une décision qui écarte quasiment tous ses arguments. Après cet échec, Laetitia Hallyday a donc changé d'avocat l'été dernier et quasi un an après annonce un accord définitif avec Laura Smet. David Hallyday ne demandait qu'un droit de regard sur l'œuvre et n'a pas participé aux négociations dont son avocat Pierre-Jean Douvier salue l'issue.
Nous nous réjouissons pour Laura de cet accord. Nous n'en sommes pas partis. Je rappelle que ce qui nous importait, c'était la mémoire de Johnny et la protection des sœurs. Donc tout ceci va dans le bon sens. Maintenant, on est dans l'apaisement. Il va y avoir les désistements des actions judiciaires et nous nous en félicitons.
Du côté de Laura Smet, personne ne veut préciser le contenu de l'accord.
Enquête de Salomé Legrand pour Europe 1. 57 000 contaminations de plus en 24 heures. Sinistre record aux États-Unis. Alors que ce week-end de fête nationale, traditionnellement, c'est l'occasion de grands rassemblements et de fêtes de famille. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a appelé tous les pays du monde à se réveiller, je cite, face à l'épidémie.
Pendant ce temps, en Europe, réouverture des restaurants, des pubs et des cinémas au Royaume-Uni. Aujourd'hui, en Autriche, reprise du championnat du monde de Formule 1, les qualifications cet après-midi. Hier, Lewis Hamilton et Mercedes ont dominé les premiers essais libres.
Merci beaucoup. C'était le journal de 8 heures présenté par Marion Calais. Marion s'en va trois quarts d'heure. Elle revient à 9 heures.
À tout à l'heure,
Marion.
8h13. Très bon début de journée avec Europe 1.